Il est 19h21.
France Inter, le 18-20.
L'idée du grand débat, c'est à lui qu'on la prête, pas forcément sous cette forme. On lui demandera d'ailleurs ce qu'il pense du démarrage, des questions, de la mise en place, mais l'impératif de se parler, en tout cas pour essayer d'enrayer la crise, là pour le coup, on peut le mettre au crédit de Laurent Berger, même si, avec la CFDT, comme beaucoup, et comme nous les journalistes d'ailleurs aussi, il fait partie de ces corps intermédiaires au-dessus desquels le gouvernement a souhaité passer, et au-dessus desquels passent aussi les gilets jaunes. Il n'y a pas de drapeau syndical, évidemment, dans les manifestations. On ne voit pas les organisations mieux comprendre, et encore moins encadrer finalement cette contestation. À côté de ça, la CFDT, désormais premier syndicat de France, là, c'est dans les entreprises que l'on vote, et donc on pourra parler aussi de qui, au fond, représente aujourd'hui les syndicats, dans quel shaker il faut que les organisations se mettent pour redécouvrir, redevenir des interlocuteurs pour le gouvernement et aussi pour ceux qui le contestent. Parlons de tout ça ensemble avec Laurent Berger, qui est là jusqu'à 20h avec nous. Bonsoir Monsieur Berger.
Bonsoir.
Et soyez tous les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Allez Marc, c'est avec vous que ça commence. Bienvenue, bonsoir.
Bonsoir Fabienne Saint-Ès. Merci pour l'esprit d'ouverture de votre émission. Et je voudrais particulièrement saluer Laurent Berger.
Bonsoir.
En tant qu'auditeur de France Inter. Parce que vous êtes secrétaire général d'un syndicat qui, depuis de longues années, cherche à construire une société plus juste et plus démocratique par la négociation et éventuellement aussi le rapport de force. Et à titre personnel, je vous signale que j'étais, il y a une quarantaine d'années, délégué syndical CFDT et que ma fille est même engagée, elle est directrice d'hôpital, elle est engagée dans votre syndicat. Et donc, je vous ai écouté il y a une quinzaine de jours dans l'émission Questions politiques et je trouvais que vous étiez peut-être un petit peu dur vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Et je voulais vous poser la question, pensez-vous que, sincèrement qu'Emmanuel Macron, à l'issue du grand débat, va accepter spontanément de céder une parcelle de son pouvoir ? De son pouvoir à lui, président de la République, qui est, selon moi, beaucoup trop important, mais aussi celui des technocrates qui l'accompagnent et, accessoirement, celui des puissances économiques qui l'ont mis en avant. Donc, croyez-vous que il va abandonner donc une parcelle de son pouvoir et le remettre au peuple et à ceux qu'il représente.
Merci Marc pour cette entrée en matière. Laurent Berger, est-ce que le grand débat sert à ça ? Est-ce que c'est ça que les gens attendent ? Et est-ce que ça, vous l'entendez, céder une parcelle de son pouvoir ?
Je vais répondre à cette question, mais peut-être avant, je ne suis pas dur avec ce qu'exprime un certain nombre de personnes gilets jaunes qui ont dès le départ dit qu'elles vivaient mal parce qu'elles étaient elles avaient un déficit de considération, parce qu'elles avaient des difficultés à boucler les fins de mois.
Vous avez dit
etc.
Le pays est en train de s'hystériser, il y a eu cette phrase, parce que c'est à ça que
ça ça c'est sûr
marqué.
Mais enfin personne peut le nier depuis mi-novembre et ce qu'on a vécu. Par contre la récupération qui est faite de ce mal-être social et l'instrumentalisation par notamment l'extrême droite et une partie des extrêmes m'inquiète, c'est pour ça que je distingue bien les deux. Est-ce qu'il va céder
une parcelle ?
Alors
on va y revenir, mais effectivement, céder une parcelle de pouvoir.
D'abord, on ne lui demande pas de céder une parcelle de son pouvoir. Je crois qu'on lui demande d'écouter ceux et celles qui, dans le pays, représentent des salariés, des associations, des personnes qui subissent la précarité, la pauvreté, etc. Et donc, ce grand débat, il est plutôt intelligent. Parce qu'on a besoin de se parler. On a besoin d'écouter les citoyens. Il y a un besoin de démocratie citoyenne participative beaucoup plus
fort. Mais c'est ça que ça veut dire, céder une parcelle du pouvoir. C'est ce que j'entends dans la question de Marc,
en fait. À la fin, ce qu'il y a, c'est la façon dont il va traiter le débat à la fin. Et savoir comment les décisions, parce que j'espère qu'il y aura des décisions, vont être prises. Si elles sont prises à quelques-uns, sans concerter, sans discuter avec les associations, les organisations syndicales, les représentants des élus, etc., eh bien, il y aura un plantage, c'est évident. Et on retournera à une situation d'opposition frontale. Et donc, je ne suis pas certain, en fait, pour vous dire franchement, Marc, je ne suis pas certain qu'il fera ça. Nous, on appelle un Grenelle du pouvoir de vivre. C'est, alors, Grenelle, c'est un mot un peu ancien, donc à une conférence, peu importe, une réunion
pourquoi
où on pourrait mettre les choses.
Pourquoi pouvoir d'achat, du coup? Pourquoi on dit parce pouvoir
que
de vivre?
Parce que je crois que ce qui s'exprime dans les Gilets jaunes, c'est plus puissant que la question du pouvoir d'achat qui est très importante, mais ça parle de reconnaissance, ça parle de transition écologique aussi. Il faut pouvoir de vivre, c'est vivre dans un environnement sain, dans une planète qui soit durable, c'est vivre ensemble, démocratiquement, sans chercher des coupables, en se respectant les uns des autres. C'est pour ça qu'on a fait cette proposition du Grenelle du pouvoir de vivre.
Mais du coup, vous avez l'impression qu'il manque des questions, ou est-ce que vous avez plus peur qu'on ne tienne finalement pas assez compte des réponses qui ont été faites, ou en tout cas des propositions côté bête, parce que quand on entend Marc et il n'est pas tout seul, on n'est pas très sûr que Emmanuel Macron et les gens qui participent à ces débats sont sur la même longueur d'onde, en fait.
Moi, je ne suis pas très sûr non plus d'être sur la même longueur d'onde. Je suis à peu près sûr de l'inverse. Il manque la
vous
question...
Vous n'êtes pas très sûr vous-même d'être sur la même longueur d'onde, ou qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde?
D'être sur la même longueur d'onde avec le contenu de la lettre,
voilà,
et la façon, mais je vais y revenir.
D'abord,
le premier point, c'est qu'il manque la question du pouvoir d'achat. Dans ce débat, mais comme on nous a dit, il a été dit aux Français, vous pouvez parler de tout, nous on va en parler. Deuxièmement, la façon dont sont orientées un certain nombre de questions pose difficultés.
Comme par exemple
Lorsqu'on dit est-ce que vous trouvez que les impôts sont trop élevés?
Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité?
Voilà, et est-ce qu'on pourrait pas parler de justice fiscale et de comment l'impôt pourrait être beaucoup plus juste? C'est une autre façon d'orienter la question.
Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire?
Donc vous voyez bien que c'est quand même très orienté. Donc après, il intervient à ceux qui vont répondre. Il appartient à ceux qui vont répondre, dont nous, de réorienter la question par nos réponses en disant ce dont on a besoin, c'est de justice fiscale. Et troisièmement, je ne sais pas comment ça sera traité. Il y aura sûrement un formidable matériau. La parole des Français, elle a beaucoup de valeur, donc il y aura un formidable matériau. La seule question, c'est comment on va prioriser, hiérarchiser, et pour ça, il faudra confronter des points de vue différents, et c'est là où, pour l'instant, on n'a pas de réponse.
Et pour l'instant, vous n'êtes pas non plus invité à regarder les réponses qui ont été faites, vous, quand je dis vous, pas seulement vous, Laurent Berger, mais vous, syndicat au sens large, à regarder les réponses et à faire aussi votre synthèse, ou pas?
On a compris, nous, on va faire nos propres débats, avec nos propres façons de présenter les sujets, et en élargissant le pouvoir d'achat. Mais c'est sûr que la présentation finale des résultats, elle nous sera sans doute faite en même temps que tout le monde.
D'ailleurs, puisque Marc faisait allusion à cette émission où vous étiez sur France Inter au début du mois, où on vous avait posé la question de savoir si vous aviez vu Emmanuel Macron, vous avez dit ben non, pas depuis le mois de décembre. Est-ce que depuis cette date, vous l'avez vu, Emmanuel Macron, ou toujours pas?
Non.
Toujours pas?
Non, non.
Au moment où on se parle, donc depuis le 10 décembre, c'est ça l'idée?
Oui, depuis le 10 décembre, dans une réunion collective avec les autres organisations syndicales, les organisations patronales, les associations d'élus, etc.
Et là, depuis le grand débat a été lancé, est-ce que vous avez donné des signes, envoyé des appels du pied pour dire « on aimerait nous aussi y participer, ne nous oubliez pas » ou est-ce que vous attendez, ou est-ce que vous avez l'impression que son boulot à lui, c'est de venir vous chercher
Moi, je ne veux pas m'enfermer dans une relation entre « il se voit, il ne se voit pas », parce qu'à la rigueur, on peut voir d'autres. Le Premier ministre, il est celui qui gouverne la France.
Vous le voyez, en revanche
On s'est pas vu récemment, mais on peut échanger et peut avoir les conseils. Non, nous on ne demande pas l'autorisation de participer au grand débat.
Non, j'entends bien.
On va y participer.
Pas d'y participer, mais de participer à ce qui se passera derrière.
Ce qui passera derrière, on a fait savoir. On a fait savoir qu'on voulait ce moment où on traitera ensemble les résultats et où on essaiera de trouver des pistes de solutions, des solutions sur la question de la transition écologique, du pouvoir d'achat, des services publics. Et donc, si ça infléchit pas la politique. Les deux reproches principaux que j'ai faits depuis le début de ce quinquennat, c'est 1, la verticalité du pouvoir, 2, pas de politique sociale, claire, pas de cap social. Si ça infléchit pas de ces deux côtés-là, c'est vrai qu'on sera un peu dans une impasse.
Pascal, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Pascal, allez-y.
Oui, eh bien, déjà, aussi, je viens, comme les autres auditeurs, apporter mes félicitations pour la qualité de vos émissions et merci de prendre ma question. Alors, je vais peut-être apporter un peu de l'eau au moulin à Monsieur Berger là, suite à ce qui vient d'être dit. Mais alors, dans le cadre des entreprises, c'est que en France, on le dit de temps en temps, la culture d'entreprise du point de vue négociation entre patronat et salariés, elle est relativement faible. Elle est peut-être même de plus en plus faible. Personnellement, je travaille dans une entreprise là, du secteur nouvelle technologie. Il y a beaucoup de jeunes collaborateurs qui qui ont très peu la culture, enfin la culture syndicale, hein, pour le dire ce qui est. Et je pense qu'il pourrait être intéressant d'instituer, enfin vraiment d'un point de vue enfin institutionnel, hein, des pratiques dans l'entreprise qui impulse le dialogue social, qui impulse une culture de négociation entre une direction et les salariés. Voilà. Donc il y a déjà des instances telles que comité d'entreprise, etc. Mais voilà, quelque chose qui redonne un coup de nouveau et qui presque oblige les gens à s'impliquer réciproquement. Mais, là-dedans.
Merci Pascal. Redonne un coup de nouveau, je retiens cette phrase aussi que prononce Pascal Laurent Berger. Il manque de culture syndicale dans les entreprises aujourd'hui.
Oui, c'est très disparate selon qu'il y ait un dialogue social affirmé ou pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pascal. C'est dans les propositions que la CFDT fait, il y a remettre un peu de démocratie dans l'entreprise, sur les lieux de travail. Et notamment de l'écoute des salariés. On le voit bien, dans une entreprise où on écoute les salariés sur la façon dont ils vivent leur travail, les difficultés, mais aussi les aspirations qu'ils ont, ça se passe beaucoup mieux que lorsque ce n'est pas le cas, y compris en sentiment de considération. Et donc, il y a besoin de réinsuffler une politique du dialogue social dans les entreprises. Aujourd'hui, on l'a vu avec la suite aux ordonnances travail, mise en place par la majorité actuelle, ça a dégradé le dialogue social dans nombre d'entreprises parce que les employeurs se sont dit on fait le minimum et on réfléchit pas à la façon dont on peut échanger sur les enjeux du travail.
Et est-ce que c'est pour ça qu'on passe pas par vous là en ce moment? Parce que dans la remise en cause globale que demandent par ailleurs les Gilets jaunes, qu'on entend sur les ronds-points, peu importe après la forme, mais il y a les politiques, il y a les journalistes et il y a aussi les syndicats.
Oui, oui,
donc est-ce
tout le monde.
Que parce que quand on les regarde, regardez, c'est un mouvement du samedi, Laurent Berger.
Oui,
le mouvement du samedi, ça veut dire qu'on va bosser.
C'est justement un mouvement qui nous interroge parce que c'est un mouvement qui est parti sur la question du pouvoir d'achat et qui interroge pas la relation du contrat de travail, c'est-à-dire sa relation à l'entreprise. C'est plutôt sur les éléments périphériques du logement, du transport, de la mobilité, puis au final un peu de reconnaissance. Mais il ne faut pas rêver, il y a une partie, quand on parle du pouvoir d'achat, une partie de la solution, c'est quand même des négociations dans les entreprises et une meilleure répartition de la richesse. Et nous, dans les propositions qu'on fait, et dans les mobilisations en cours, dans les entreprises, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire il faut des politiques salariales dignes de ce nom.
Sauf que c'est frappant, on n'entend pas tellement parler des patrons, en fait, la rue. On entend parler
justement
de l'État, entend parler de pouvoir d'achat, comme vous dites, effectivement, mais on n'entend pas parler des patrons.
Non, mais justement, il faut aussi replacer le débat de ce côté-là. La question du pouvoir d'achat, c'est évidemment les dépenses contraintes, donc il faut agir dessus sur la question du logement, du transport, etc. Mais c'est aussi d'abord le salaire. Parce que c'est un mouvement de salariés, aussi de travailleurs indépendants. Et donc la question du salaire, c'est la répartition de la richesse créée dans l'entreprise. Et là-dessus, nous, on est en train de lancer une campagne en direction de nos équipes en disant demandons des augmentations de salaire parce que c'est légitime. Mais c'est vrai que sur la culture syndicale, vous savez, il y a une remise en cause de toutes les institutions.
Ouais.
D'ailleurs, parfois, de la part de certains, en disant les associations, les organisations syndicales, ça sert à rien, ils obtiennent rien, mais de gens qu'on n'a jamais vus dans une quelconque manifestation, organisation collective, etc. Donc c'est un peu dur à avaler, je ne vous le cache pas, pour un certain nombre de militants.
Il y a beaucoup de primo-manifestants dans ces mouvements-là.
Oui, et c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur ceux qui, depuis des années, se mobilisent pour essayer de faire avancer la justice sociale dans ce pays. Encore une fois, je distingue dans les Gilets jaunes ceux qui portent ces propositions, ces difficultés et qui voudraient des solutions et ceux qui l'instrumentalisent. Mais ceux-là, il faut qu'ils s'inscrivent dans une action collective.
Mais ça veut dire que demain, vous croisez un Gilet jaune là en descendant de France Inter dans la rue, vous lui dites quoi? Est-ce que vous lui dites, nous on sait faire, nous on peut vous aider, nous on peut vous structurer? Est-ce que vous cherchez à les convaincre de ou pas?
Dans les territoires, les équipes CFDT, les responsables CFDT dans les territoires, ils sont pour certains en contact avec des Gilets jaunes, avec ceux qui expriment ce mécontentement, ce mal-être. Encore une fois, il n'est pas question de les stigmatiser, d'être dur avec eux. Et en fait, on leur dit de passer de la colère légitime sur ces sujets-là à l'engagement, à la recherche de solutions collectives. Et puis tous les autres qui ont instrumentalisé pour essayer de déstabiliser la démocratie et d'instaurer une société beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus excluante et tout. Ceux-là, on n'a rien à voir avec eux, on veut juste les combattre.
Est-ce que vous avez le sentiment que ce mouvement continue à avancer et que précisément c'est peut-être à ce moment-là que vous entrez en jeu, j'en sais rien. Est-ce qu'il continue à avancer? Est-ce que vous en comprenez le sens, en fait, mais le sens direct, dans le sens de direction ou pas? Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans la période d'essoufflement, là, selon vous?
Non, d'abord, il faut toujours se méfier de parler d'essoufflement, mais en tout cas, on est dans le moment où un certain nombre de personnes qui ont manifesté au départ se disent, il y a un débat, on va essayer de pousser et de voir ce que ça produit. Et ça, c'est plutôt une démarche responsable, démocratique. Après, tous ceux qui essayent de dire qu'il faut, il faut aller plus loin, mettre de l'agitation, etc., ceux-là, on ne les comprend pas, mais on voit bien où ils veulent aller, par contre.
Allez, Didier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Didier.
Merci beaucoup, merci pour vos émissions. Je salue toutes les personnes présentes sur le plateau. Je vais donner un peu d'écho aux propos de Pascal, dont je partage l'analyse. On parle beaucoup depuis le début de cette soirée de démocratie, de verticalité du pouvoir. Dans l'entreprise, c'est ce qu'on constate, effectivement, c'est ce qu'expliquait très bien Pascal. Moi, je vais en venir à quelles seraient les solutions, parce que c'est un constat qu'on fait tous. On voit que les salariés, vous venez de le dire, sont très désengagés de ce qui se passe. Est-ce qu'il ne faut pas trouver les moyens de plus les associer aux décisions stratégiques des entreprises? Je ne vais pas parler du modèle allemand, mais ça parlera sans doute plus simplement à beaucoup de monde. Et est-ce que l'un des outils ne serait pas un autre modèle étranger? C'est d'obliger les salariés à se syndiquer. Ça permettrait de diffuser une culture, d'intégrer les gens dans un système, et puisqu'on les associe aux décisions stratégiques de l'entreprise, eh ben je pense que ce serait très motivant, et qu'il s'agisse du développement, de la réussite de l'entreprise, du partage des richesses, et de tous les sujets, les thèmes qui occupent les débats en ce moment. J'ajouterais, si vous le permettez, on pourrait tout à fait étendre ce domaine-là au droit de vote. Est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est un devoir? Est-ce que ça permettrait pas non plus de requalifier la majorité, puisque aujourd'hui les syndicats, on questionne leur représentativité, mais si tout le monde s'exprime, c'est plus clair. Et il en irait de même sur la légitimité des résultats aux élections. Si tout le monde doit voter, comme c'est le modèle là encore ailleurs, eh bien ma foi, ça serait déjà moins critiquable en termes de résultats. Voilà, merci.
Je vous en prie, Didier, merci beaucoup. Alors sur l'obligation de voter, ça existe dans certains pays, y compris chez nos voisins, mais en même temps, personne ne vient vous chercher par le col pour aller voter malgré tout. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Vous allez nous le dire, Laurent Berger. D'abord, l'obligation de se syndiquer.
C'est une piste qui a été explorée. Moi, je crois que tout ce qui est obligatoire quand on veut s'inscrire dans un collectif, c'est quand même un peu compliqué. Par contre, la création du chèque syndical, la généralisation du chèque syndical qui permet de contribuer, de montrer que le fait syndical est normal dans une entreprise et que l'entreprise contribue à une part de l'adhésion du salarié, tout en sachant pas évidemment à quel syndicat il adhère, je pense que ce serait une bonne piste qui n'a jamais été vraiment explorée parce que beaucoup sont contre. Mais la question du partage du pouvoir dans l'entreprise, c'est déterminant. Hein, ce qui a été, moi, je partage totalement. Il y a en ce moment la loi Pacte qui est examinée au Parlement. On est encore très timide sur ce partage de pouvoir, sur l'association des salariés à la stratégie d'entreprise, leur représentation dans les conseils d'administration. On peut aller beaucoup plus loin. Nous, on prône une espèce de codétermination à la française. On a fait ces propositions depuis un certain nombre de temps et d'années, et il faudrait aller là-dessus. Sur la représentativité des organisations syndicales, vous savez, aucun d'entre nous doit s'exonérer de faire un peu son...
L'aggiornamiento.
Voilà. Ceci étant, moi je rappelle que aux élections de la fonction publique, là, les élections professionnelles, il y a eu 50% de participation, c'est trop faible, c'est très faible. Mais aux élections législatives, dans la circonscription, dans une circonscription récemment, le député, il a été élu avec 14% de participation. Et donc si on commence à jouer comme ça, et c'est pas du tout ce que fait Didier, hein, mais si on commence à jouer comme ça, on va mettre en l'air toutes nos institutions, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on s'organise pour vivre ensemble et faire se confronter pacifiquement à des intérêts contradictoires.
Mais c'est pas ce qui est aussi en train de se passer aujourd'hui, au fond.
Mais justement, il faut lutter contre ça en renforçant la démocratie représentative et en redonnant de la place à la démocratie sociale. Mais il faut renforcer la démocratie représentative, qui est quand même l'exercice qui est par
le vote. Donc la rendre plus participative.
Oui, plus participative. Il faut aussi que les députés soient peut-être un peu plus écoutés, tout simplement, y compris au Parlement. Donc, moi, je crois que ce qui est en cause, vous savez, en mai 2017, j'avais écrit une lettre ouverte au président de la République. Je lui disais, notre pays va pas bien, vous n'avez pas d'état de grâce, il va falloir partager le pouvoir. Mmh. Et partager le pouvoir, c'est pas renoncer à votre pouvoir, à celui qui est celui du président de la République.
C'est pas céder la parcelle de pouvoir, non.
Non, vous pouvez pas trouver les solutions tout seul et vous pouvez pas décider tout seul. Malheureusement, c'est un peu trop ce qui s'est fait.
Pendant la loi travail notamment, on avait beaucoup discuté de référendum à l'intérieur de l'entreprise, et voilà que ça revient sur le tapis, là, bien au-delà de l'entreprise, sur des référendums d'initiative citoyenne. Vous, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Quand vous dites qu'il faut redonner de la représentativité, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'il faut avoir recours à ce genre de système plus souvent? Dans
si
quel cadre?
Si un référendum permet de la délibération collective, évite que les lobbies s'emparent du sujet, des choses peuvent être regardées, mais franchement, le référendum d'initiative citoyenne, de notre point de vue, c'est un fauné des extrêmes. C'est la meilleure capacité à ne pas faire appel à l'intelligence collective, à la construction de compromis, et d'aller vers des positions radicales, parce qu'on ne répondra pas forcément à la question. Mmh. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit une bonne piste. Après, qu'il y ait, sur certaines questions, des référendums, comme le prévoit la Constitution, très bien, on peut regarder comment on les étend potentiellement, mais pas ce référendum d'initiative citoyenne qui est, je crois, qui est en fait un rapport très direct des dirigeants au peuple, et on nie en fait l'épaisseur de la société.
Regardez cette question, Laurent Berger, de Jocelyne sur franceinter.fr. Je suis syndiqué à la CFDT depuis de nombreuses années et je me pose la question de savoir si j'arrête mon adhésion ou pas. Pour être entendu, faut-il être violent, casseur? Faut-il être gilet jaune? Quel avenir pour le syndicalisme? Et que propose là-dessus la CFDT? En matière de caisse de résonance, le sens de la question de Jocelyne,
c'est
la caisse de résonance.
J'arrive de Nevers, là. J'étais avec des militants CFDT de l'hôpital public de Nevers. Tout le monde, on se pose, moi-même, je me pose la question. Vous savez, ça fait mal au bide quand, depuis des mois et des mois, vous dites que la CSG pour les retraités à partir de 1200 euros, c'est une pure folie, parce qu'on a des retraités à 1200 euros qui sont pauvres et qu'il faut sûrement remonter à 2000 euros, et que vous faites des manifestations à peu près dans tous les départements, que les autres organisations syndicales font de même, que vous faites une carte pétition que vous portez au président de la République, et que c'est parce qu'il y a des violences qu'on répond à cette préoccupation, à cette revendication, et ben ça veut dire qu'il y a un truc qui marche pas. Et donc il faut surtout pas arrêter de s'inscrire dans des organisations collectives, qu'elles soient syndicales ou associatives. Il faut maintenant faire comprendre à ceux qui nous gouvernent que s'ils nous écoutent pas, c'est le chaos qui se profile. Et que une organisation collective comme la CFDT, ça sert à faire délibérer les gens entre eux, à discuter, à hiérarchiser des revendications, à cadrer la façon dont on les exprime et on les porte, et à s'engager lorsqu'il y a des solutions concrètes. Et si le président de la République comprend pas ça et continue cette espèce d'itinérance où on va piocher ici ou là un certain nombre de propositions, mais on n'en parle jamais pour voir si c'est carrossable, ça marchera pas. Donc il faut pas arrêter l'adhésion à la CFDT, il faut au contraire redoubler d'efforts, et nous, on doit trouver des moyens de se faire entendre.
Alors justement, j'allais dire...
Mais jamais dans la violence.
Alors voilà,
jamais dans la violence.
Mais j'allais dire, pourquoi, effectivement, en disant la même chose, ça ne marche pas, et vous ne réunissez pas suffisamment de gens pour que ça ait du sens et que ça ait du poids, pourquoi, à un moment, c'est pas que la faute du gouvernement, si, qui ne vous entend pas? Votre responsabilité à vous, syndicat, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on a raté là-dedans?
Simplement que nos modes de mobilisation traditionnels, ils s'essoufflent. Et donc, ça veut dire qu'il faut...
C'est le mode de lutte qui s'essouffle, alors, du coup.
Oui, enfin, en tout cas, pas dans les entreprises, parce qu'on voit qu'on obtient un certain nombre d'acquis dans les entreprises. Il est faux de dire qu'on n'a rien obtenu. Il suffit de regarder les accords salariaux, par exemple, ou la défense individuelle dans un certain nombre d'établissements. Mais le mode de mobilisation dont on a l'impression, quand un syndicaliste, il n'est pas content, il veut porter une revendication, il fait une manifestation. Ça peut être valable sur des choses très précises, des champs professionnels, mais d'un point de vue un peu global, ça marche pas forcément. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on invente des choses peut-être un peu plus fortes, symboliques. Mais la responsabilité principale, je le répète, c'est quand même celle de ce gouvernement qui a préféré entendre la violence plutôt que l'intelligence collective, les propositions d'organisations syndicales tout à fait respectueuses de la démocratie, de et puis enfin contre la violence.
Est-ce que ça veut dire que vous craignez que pour la suite du quinquennat, ce soit extrêmement difficile, y compris de continuer à travailler avec ce gouvernement, y compris même de mettre en place un certain nombre d'outils pour porter la contestation, comme vous le disiez, parce que désormais il y aura un avant et un après gilet jaune.
Ah ben, j'espère qu'il y aura dans la tête de beaucoup de gens un avant et un après gilet jaune. Mais de toute façon, ce gouvernement, il est là. Il est légitime. Mm-hmm. Donc c'est comme dans une entreprise, on ne le choisit pas. Donc on va continuer à pousser nos propositions. Mais très clairement, si à la fin du débat, il y a cette espèce de verticalité qui continue, moi je suis très inquiet. Très inquiet sur notre capacité à répondre concrètement aux problèmes sociaux, économiques, mais aussi environnementaux qui sont posés, mais très inquiet sur l'avenir de notre démocratie. Donc c'est pas qu'une question de la place des uns et des autres, vous savez. Moi, franchement, j'ai autre chose à faire que de passer mon temps à essayer d'expliquer qu'il faudrait qu'on se parle. Mais si le président de la République, le gouvernement, à l'issue de ce débat, n'est pas capable de montrer qu'il a compris qu'il fallait davantage discuter et partager les responsabilités d'une certaine manière, eh bien, on ira, ouais, je crois, dans un moment très compliqué démocratiquement. Et ça profitera à qui? C'est ça le problème. Moi, j'ai pas envie d'être en Italie, j'ai pas envie d'être en Hongrie.
Que pensez-vous de l'appel à la grève générale illimitée prévu par la CGT le 5 février? Certains politiques, comme Olivier Besancenot, veulent rejoindre le mouvement. C'est ce que nous dit Julien Alonce-Lessonnier.
Oui, il y a aussi un gilet jaune, M. Drouet, qui appelle à la même chose, à la grève générale. La question, c'est pourquoi nous, on décide pour l'instant de s'inscrire, de mener notre propre débat sur les sujets qui sont ouverts et sur d'autres, et à la fin, avec d'autres organisations, des associations, le monde mutualiste, de porter des revendications en commun. Et on préfère encore faire l'exercice du dialogue. Si il se révèle inefficace, ben on verra comment se mobiliser.
Bonsoir Jean-Michel.
Oui, bonsoir. Donc Jean-Michel, je suis délégué syndical CGT à Toulouse.
Allez-y.
Je viens d'entendre ce que dit M. Berger. Mon interpellation, c'était justement sur le 5 février. Nous avons émis un appel intersyndical. Et bon, alors certes, voilà, on se retrouve la CGT. Je ne comprends pas M. Berger qui défend le pouvoir d'achat, qui lutte contre les précarités. Tout en votant les contrats de chantier d'ailleurs, et je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas rejoindre un mouvement qui a sa justification, quoi.
Merci Jean-Michel. Laurent Berger va vous répondre.
D'abord, je ne vote rien. Les syndicalistes, ils ne votent rien. Ils, parfois, ils signent des accords. Et ces derniers temps, les accords signés par la CFDT, ils ont permis un certain nombre d'avancées, notamment, par exemple, sur la complémentaire santé payée par l'employeur à 50%. Et deux, ça n'a jamais été un mouvement intersyndical lancé le 5 février. C'est la CGT, et c'est tout à fait respectable, mais qui a décidé seul de lancer cette journée de grève. Ça la regarde, et encore une fois, je le respecte, mais ça n'a jamais été intersyndical, et moi, j'ai pas l'habitude de rejoindre une mobilisation ou un mot d'ordre lorsqu'on n'en a pas discuté en commun.
Éric, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Éric.
Bonjour, Laurent.
Bonsoir.
Éric de Saint-Nazaire, on était à Restibri ensemble, je rappelle. On était à la fac après ensemble.
Ah ouais, je connais bien.
Oui, voilà. Ouais, c'est un mouvement de laquais, ça fait longtemps, tu m'avais invité à ton mariage, j'ai pas pu y aller, bon voilà. Mais voilà,
bah,
moi
donc.
Je suis, voilà. Bon. Après, voilà, moi je suis militant syndical aussi, au sein du PPFSU, je suis élu là-dessus, je suis aussi conseiller municipal à Saint-Armin, sur une citoyenne, Saint-Armin à gauche toute. Et voilà, moi j'ai... Les questions que j'ai, la première, c'est t'as pas l'impression d'avoir trahi un peu tous les idéaux de jeunesse qu'on avait à l'époque, parce que c'est vraiment ça. Et deuxièmement, est-ce que tu te sens quand même pas responsable? Alors, moi, j'ai fait le choix de pas être un apparatchik. Toi, t'as fait carrière là-dedans. Après la JOC, t'étais à la CFDT et t'en as fait une carrière. Je pense que le syndicalisme et la politique doivent pas être professionnels, d'une part. Ça, c'est déjà un premier accro aux idéaux de jeunesse. Et puis la deuxième chose, c'est que... la CFDT, qui était un syndicat très intéressant dans les années 70, aujourd'hui est plus qu'un syndicat d'accompagnement. Est-ce que tu ne te sens pas responsable aujourd'hui, justement, de la situation, de tous les accords qui ont été signés par la CFDT, par rapport aux retraites, par rapport à tout ça, par le refus, effectivement, de mobiliser et de s'affronter à un système? C'est plus qu'un syndicat d'accompagnement. Vous refusez, effectivement, tu refuses de voir la réalité, je pense. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Le capital, il n'a plus besoin de syndicats comme le tien. Il a le pouvoir. Voilà. Et voilà. Résultat, ce qui se passe, c'est que ça se passe dans la rue.
Voilà pour la remarque d'Éric, votre ancien camarade de lycée, puis de fac, Laurent Berger.
Oui, on était déjà en profond désaccord quand on était au lycée, à la fac, sur la façon d'apprécier les choses et d'agir.
Donc chacun est resté dans son couloir.
Oui, tout à fait. Ça ne nous a jamais empêchés de passer des bons moments ensemble. Mais franchement, d'abord, les idéaux de jeunesse des uns et des autres, ils appartiennent pas aux autres, ils appartiennent aux personnes. Donc, je ne crois pas les avoir trahis. Moi, je sais d'où je viens. Et qui j'étais à ce moment-là, et je venais pas d'un milieu petit bourgeois, je venais d'un milieu modeste, et on essayait de changer la vie concrètement, et je continue de le faire, et je suis fier de le faire.
Je voudrais qu'on écoute François qui nous attend depuis longtemps. Bonsoir François.
Bonsoir.
On vous écoute François, allez-y.
Je voulais demander à François Laurent Berger, si dans le contexte qui est quand même marqué par une forte mobilisation de salariés pauvres, de chômeurs, de précaires, où il y a une forte exigence de justice sociale, qui a une grande crise de la représentativité, comme on dit. Voilà. Est-ce que vraiment c'est judicieux d'engager une négociation avec le patronat sur la base d'un document, dans le cadre d'un document fixé par le gouvernement, qui prévoit plus d'un milliard par an d'économies sur les droits des chômeurs et précaires? Vraiment, est-ce le moment d'engager ça? Ou bien, ne serait-ce pas le moment, au contraire, d'exiger des droits nouveaux et de se mobiliser pour.
Merci François pour votre question et Laurent Berger qui vous répond. Est-ce qu'on continue à négocier, j'allais dire, pendant les travaux, les négociations continuent?
Oui, c'est parce que c'est la responsabilité de toutes les organisations qui sont d'ailleurs autour de la table au moment en ce moment dans les négociations assurance chômage, mais négocier, c'est pas s'engager. Nous, on a été très clair, la lettre de cadrage du gouvernement sur l'assurance chômage, elle n'est pas la nôtre. La logique budgétaire qui est défendue par le gouvernement, c'était avant les gilets jaunes. J'espère que les choses sont évolue un peu dans les esprits depuis du côté du gouvernement, c'est pas la nôtre. Et donc, l'assurance chômage, si elle est ce filet de sécurité, et ce filet, c'est juste un filet, hein, et c'est parce que à des moments donnés, on a tenu nos responsabilités. Cette négociation, elle est très difficile, le patronat veut pas entendre parler de bonus-malus, peut-être qu'elle se soldera par un échec, ou un... En tout cas, c'est une hypothèse possible. Et bien, dans ce cas-là, c'est le gouvernement qui reprendra la main. Mais je rappelle que quand il reprend la main, le gouvernement, ça se passe pas forcément très bien pour les chômeurs. Deuxièmement, oui, il y a beaucoup de précarité, beaucoup de pauvreté. Il y a une seule organisation durant l'été et au moment du mois de septembre qui s'est engagée aux côtés des associations, comme la Fondation AP Pierre, ATD Quart Monde et d'autres, sur la question de la stratégie pauvreté, pour essayer d'obtenir des avancées dans ces stratégies pauvreté. Donc moi, je me nourris pas de discours, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est le réel, autrement que simplement des slogans un peu faciles. Donc la CFDT tient sa place, y compris dans les entreprises, pour lutter contre la précarité. On est engagé aujourd'hui pour des droits pour un certain nombre de salariés précaires, pour les faire embaucher dans certaines entreprises qui abusent. Voilà, c'est ça le réel. C'est pas les grands discours.
Et dans le réel, peut-être dans le débat aussi. Voici Anne au 01 45 24 7000. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Bon, j'espère que je vais parler de façon cohérente. Je suis toute émue de passer à l'antenne.
Ben, je vous en prie, vous avez le temps.
Je disais à vos collègues au Standard qu'il y a des choses que j'entends pas beaucoup et que j'aimerais entendre plus souvent de la part de différentes personnes. Il me semble qu'on est vraiment dans une urgence à tous les niveaux et que tout ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est, je dis, des bouts de ficelle. On demande bon plus de pouvoir d'achat, je comprends, je suis d'accord, mais pourquoi et pour quel but? Pouvoir d'achat pour pouvoir consommer, pour relancer de la croissance. De la croissance, ça veut dire qu'on va produire, on va créer des déchets, on tue le climat, on est en train de tuer la Terre petit à petit. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans 2 ans, on va être tous face à des choses qui nous dépassent et qu'on ne pourra absolument pas gérer. Et là, la croissance, elle sera bien loin. Donc je crois qu'il y a un nouveau modèle qui est à inventer et à inventer dans l'urgence. J'ai pas de solution à tous les niveaux. Je fais partie de beaucoup d'associations et d'un groupe notamment... Citoyens en transition sur ma commune, et on s'aperçoit s'aperçoit qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec très peu de moyens et avec juste la motivation des gens et la solidarité qu'on trouve et qu'on trouve vraiment très facilement dès que les personnes sont concernées et intéressées par ce qui se passe. Donc à tous les niveaux, zéro déchet, démocratie, enfin gouvernance collaborative, habitat, énergie, voilà, je crois que tout est inventé et bon, j'en ai un peu marre d'entendre tout le temps les discours de toutes petites solutions très momentanées. Je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse un pas plus important et qu'on change très très vite de cap si on veut que nos enfants...
Merci Anne, on a compris où vous vouliez nous emmener, merci beaucoup. Laurent Berger va vous répondre. Est-ce qu'on ne saisit pas assez le moment? C'est ce que nous dit Anne en fait. Puisqu'on est en plein débat, puisqu'on parle de beaucoup de choses, est-ce qu'il faudrait être beaucoup plus ambitieux sur ce qu'on va chercher, ce qu'on veut changer dans notre modèle?
Il faut changer de modèle de développement, c'est ce qu'on porte depuis maintenant nombreuses années. Moi, la première réaction quand la crise des Gilets jaunes a démarré, ça a été une crainte que les faibles efforts, trop faibles efforts qui sont faits sur la transition écologique soient encore moins faits. Mais sur la question environnementale...
C'est le cas, non ? Au fond,
oui, bien
au bout
sûr.
Du compte ?
Mais bien sûr, la grande victime potentiellement de cela, c'est la transition écologique. La grande victime, c'est de réfléchir à comment on peut vivre, partager les richesses demain. Voilà. Vous savez, on ne réfléchit pas assez. Il y a un autre sujet sur lequel moi je suis extrêmement préoccupé, c'est les questions de fraternité, de capacité à vivre les uns avec les autres. Donc, il y a une crise environnementale à laquelle il faut répondre en changeant de modèle, y compris de modèle de production. Moi, j'ai écrit un livre avec Pascal Canfin qui s'appelait « Réinventer le progrès » pour concilier la justice sociale et la transition écologique. Et il faut y compris réinterroger ce que ça veut dire débattre les uns avec les autres, se respecter, etc. Non, mais c'est fondamental. On légifère jamais sur la fraternité et le respect. Mais on le voit, on est capable de discuter avec nombre d'auditeurs, à part peut-être mes anciens camarades de lycée, de façon respectueuse.
On salue Eric quand même.
Non, ouais, salut à toi. De façon respectueuse et constructive.
Et justement, tiens, puisqu'on parlait d'écologie, la question 14, comment finance-t-on la transition écologique ? Par l'impôt, par les taxes, et qui doit être concerné en priorité ? Est-ce que vous vous dites oui, par l'impôt, oui, par les taxes, revenons à la taxe carbone, revenons même à l'écotaxe, faut-il repasser par cette case-là ? Est-ce que la première erreur, ça a été d'enlever ces cases-là ?
On le finance. D'abord, la question de la transition écologique, c'est pas qu'une question fiscale, parce que si on la présente comme ça, on fait peur à tout le monde. Mais oui, l'écotaxe, la suppression de l'écotaxe, c'est une profonde bêtise, et la taxe carbone, c'est une bonne chose, à une seule condition, que ce soit juste et qu'elle serve, cette taxation, cette fiscalité écologique, à investir dans la transition demain et à compenser les difficultés pour les personnes qui la verseraient, comme ça se fait par exemple en Californie. Mais vous savez, moi je soutiens une initiative qui s'appelle Pacte Finance Climat pour qu'au niveau européen, on mette enfin l'argent nécessaire pour rentrer dans cette transition écologique. C'est lancé par Jean Jouzel notamment, voilà. Et du coup, il faut aller là-dessus, parce qu'autrement, on va rester à côté du chemin avec des puissances à côté, comme la Chine, les États-Unis ou la Russie, qui s'en préoccupent pas vraiment, et maintenant le Brésil, malheureusement. Donc oui, il faut aller beaucoup plus loin dans la transition écologique.
Tiens, Jean-Claude, puisqu'on n'a pas le temps de prendre sa question, je vais la prendre dans ma voix. Je suis adhérent à la CFDT depuis toujours. Jamais les adhérents ne sont consultés pour les mouvements de grève. Êtes-vous prêt à un référendum? Mais puisque le référendum est à la mode pour le rendez-vous de février.
Oui, s'il veut. Mais je veux dire, c'est les adhérents, ils sont consultés. Nos textes de congrès, on les a élaborés à partir d'une plateforme collaborative où tous les adhérents ont été invités à répondre à cela. Mais la démocratie représentative, ça existe aussi au sein de la CFDT. Il y a un bureau national.
Et ça veut dire qu'il y a des tiraillements autour de cette journée de février, notamment chez vous, ou pas ?
Que tout le monde soit pas d'accord avec le fait qu'on n'y participe pas, ça me paraît évident, parce que la CFDT, c'est pas une secte ni une armée. Mais très clairement, les adhérents de la CFDT d'été, aujourd'hui, je crois qu'ils sont assez à l'aise avec leur organisation. Vous savez, ils sont engagés dans la transformation sociale et ils veulent une démocratie un peu plus respectueuse.
En tout cas, Laurent Berger, si je vous ai bien compris, on attend le mois de mars, donc la fin des débats. Ensuite, vous, très concrètement, CFDT, une fois que les résultats sont là, qui sont sur la table, vous faites quoi ?
Non, mais nous, on n'attend pas le mois de mars. On demande aux uns et aux autres de s'engager lorsqu'ils portent une vision de progrès, de justice, de justice fiscale, de justice sociale. Il faut dire les propositions. Et à la fin du mois de mars, ou au mois de mars, il faudra qu'il y ait ce Grenelle du pouvoir de vivre. Il faudra qu'il y ait une confrontation des points de vue pour faire émerger les solutions. Et si ce n'est pas le cas, je crois qu'on rentrera dans une période de conflictualité très forte.
Et vous reviendrez donc du coup à ce moment-là. Merci beaucoup de votre passage dans le téléphone sonne. Merci à tous encore une fois pour vos nombreux appels et portez-vous bien.